Artiste de la satire, il dénonce les incohérences, il ironie à la fois.
Richard Martineau.
Est-ce qu'il est possible de rêver que le régime des mollahs en Iran tombe? Nous allons en discuter avec M. Christian Chesneau, les journalistes au service international de Radio France, les spécialistes du Moyen-Orient. Il a déjà publié plusieurs ouvrages, entre autres sur le Qatar et sur la Syrie. Et il suit de très près ce qui se passe en Iran. Bonjour, M. Chesneau.
Bonjour.
Est-ce que ça serait dans le domaine du possible de voir que ce régime-là tombe, comme les régimes, par exemple, d'apartheid en Afrique du Sud dans les années 80 a fini par tomber? Est-ce qu'on peut rêver, parce que c'est un apartheid, mais contre les femmes plutôt que contre les Noirs, est-ce que ça serait possible que ce régime-là tombe?
Écoutez, pour l'instant, c'est un rêve, hein, parce que, certes, il y a des manifestations hein, violentes, réprimées, il y a plusieurs dizaines de morts, mais c'est vrai que le régime iranien a des crocs de fer, j'allais dire, et malheureusement, la révolte n'est pas forcément très organisée. Périodiquement, l'Iran est secoué par des crises, même oui. L'année dernière, vous savez, il y a eu une sécheresse très forte en Iran, il y a eu des émeutes de la soif, durement réprimées, y compris par la force. Hein. Donc, c'est, je crois, le symptôme d'un régime en crise, mais qui n'est pas encore sur le point de tomber. Hein. Il y a plein de problèmes, mais malheureusement, la révolution ne sera pas forcément victorieuse en ce moment.
Et c'est pas la première crise, comme vous l'avez dit, il y en a eu d'autres avant comme ça, là.
Surtout depuis 2009, hein, vous vous souvenez, la réélection manipulée d'Ahmadinejad, où il y avait eu le mouvement vert, hein, ça avait duré des semaines, des mois, et la répression avait été implacable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le régime a un appareil sécuritaire ultra perfectionné, très, j'allais dire, complexe, qui a des ramifications partout dans la société, ce qu'on appelle les gardiens de la révolution, les bastiges. Donc c'est des gens qui sont capables de tout et qui, ils l'ont dit, hein, ils veulent maintenir le régime coûte que coûte et ils sont prêts à tirer sur la foule comme ils le font. Donc forcément, pour les jeunes qui manifestent pacifiquement, le tribut est très très lourd. Et donc, mais il n'y a pas vraiment d'alternative, c'est ça le problème en Iran.
Est-ce que là, c'est au-delà là, de simple révolte des femmes là, qui ne veulent pas qu'on leur impose le voile? On dirait que c'est rendu maintenant, ça s'est étendu à la société qui en aura le pompon de ce régime-là. Là.
Ah oui, parce que le problème du régime, c'est qu'il ne délivre plus grand-chose. C'est-à-dire que le régime est en crise, en tout cas l'économie est en grand délabrement, l'inflation, le chômage. Vous savez, les jeunes représentent plus de 50% de la population, ils n'ont connu que la République islamique. Et donc, ils sont très connectés sur le monde. Hein. Ils sont très diplômés, etc. Donc vous avez une jeunesse qui a des aspirations comme toutes les jeunesses du monde. Et là, elle a une chape de plomb sur un régime qui veut tout contrôler. Et donc, c'est pour ça que là, cette révolte en ce moment agrège tous les mécontentements sur, encore une fois, la corruption, la vie économique. Il faut savoir qu'il y avait la perspective, peut-être, d'un accord sur le nucléaire. A priori, ça n'aura pas lieu. Donc, le régime est en train de se refermer. Et donc, cette révolte, c'est un peu le signe de cette confrontation entre un régime qui est un peu en bout de course, qui se calcifie, mais qui encore, comme je disais, qui a des crocs, qui peut mordre durement, et une population qui en grand désarroi, qui manifeste comme elle peut. Beaucoup prennent le chemin de l'exil et souffrent en silence. Hein. Voilà, c'est ça la situation en Iran en ce moment.
Écoutez, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que les Iraniens sont quand même très éduqués. Hein. Moi, vous savez, j'aime beaucoup le cinéma et les cinéastes iraniens sont parmi les meilleurs au monde. Il y a une élite en Iran qui est une élite extrêmement cultivée. Donc, ces gens-là refusent de vivre comme au Moyen-Âge, là.
Exactement, c'est tout le paradoxe. Hein. C'est, la société iranienne est très développée, très vivante, et notamment du côté des femmes. Il y a du théâtre, il y a du cinéma, il y a des artistes, il y a des peintres. Il y a vraiment une activité culturelle, sociale, très très vigoureuse, très vivante. Et en contraste, vous avez ce régime qui écrase tout le monde. Et il faut savoir que l'histoire du voile, on peut dire que c'est un peu le dernier marqueur de la République islamique, hein, parce que à part le voile, vous avez évidemment les institutions, le guide, etc., les mollahs, mais vous savez, en Iran, plus personne ne va à la mosquée, mis à part les conservateurs, les durs du régime. Donc, vous avez une sorte de divorce entre cette société très vivante qui est contrainte, malheureusement, à manifester, mais se faire réprimer ou à quitter le pays.
Et bon, j'allais à Paris cet été pendant un mois, j'ai vu 3 films iraniens, des films qui critiquaient énormément le régime. Et là, je me demandais, c'est assez bizarre quand même que ces films-là soient faits en Iran. Peut-être qu'ils ne sont pas projetés en Iran, mais il y a vraiment un divorce entre l'élite qui est très critique et ce gouvernement-là qui est très réactionnaire, mais ça ne peut pas tenir à un moment donné, là. Ça va craquer.
Alors, c'est vrai que le cinéma iranien est très célèbre, enfin, ils ont eu des palmes d'or, etc. Il faut savoir qu'une partie, parfois, les cinéastes se font arrêter. Mais il faut savoir qu'en Iran, c'est aussi un drôle de régime. C'est-à-dire, vous avez cette chape de plomb, mais en même temps, vous avez, j'allais pas dire des discussions, mais vous avez des courants. Et souvent, dans la presse, on dénonce la corruption, on dénonce les scandales. Donc, il y a aussi quelques soupapes de sécurité que manipule le régime. Donc, c'est très étrange l'Iran parce que c'est à la fois un État très très presque dictatorial, mais en même temps il y a un pluralisme des institutions avec les passes d'Aran, le Conseil de la Révolution, le guide, le Majlis, les parlementaires, la société civile, etc. Donc c'est une société plurielle, mais qui est tenue d'une main de fer par le guide. Et donc c'est vrai que les contradictions s'exacerbent, mais encore une fois il n'y a pas d'alternative à ce stade. Peut-être que ça viendra, parce qu'il faut comprendre, il faut rappeler les jeunes là qui ont 20 ans n'ont connu que le guide et que la révolution islamique. Donc forcément ils aspirent à autre chose.
Et écoutez, monsieur Chenot, il y a des gens ici, j'ai lu certains textes en disant le problème, c'est pas le port du voile, c'est l'obligation de porter le voile en Iran qui est le problème. Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
Faut savoir qu'en Iran, le voile est obligatoire pour toutes les femmes, y compris les étrangères, y compris si vous êtes de confession chrétienne ou juive, tout le monde doit porter le voile. Donc c'est une obligation, et vous avez vu d'ailleurs le scandale récemment avec CNN, la présentatrice Christiane Amanpour qui voulait interviewer le président Raisi et elle voulait pas mettre le voile, et finalement il n'y a pas eu d'interview, parce qu'encore une fois le voile, j'allais dire, le dernier marqueur de la République islamique. Si vous enlevez le voile, vous n'avez quasiment plus rien. C'est-à-dire qu'encore une fois, les gens vont plus à la mosquée. Vous avez un régime religieux, politico-militaro-religieux. Donc la légitimité depuis Khomeini s'est beaucoup affaiblie. Parce qu'encore une fois, le régime ne produit plus rien. Il produit de la misère, il produit des sanctions. Et vous avez une population qui a soif d'ouverture, qui a soif de connexion au monde, et qu'on laisse finalement isolé. Et ça, évidemment, ça va perdurer. Je crois qu'il y aura d'autres crises, ça va continuer. Et on verra en toile de fond aussi, sur le plan politique, il y a cette succession du guide qui a 83 ans, dont la santé est plutôt chancelante, mais voilà. Et donc il y a toutes ces grandes manœuvres, et puis un régime qui se calcifie avec un durcissement, avec ces gardiens de la révolution qui tiennent toutes les manettes du pouvoir, et on le voit bien sur le dossier du nucléaire ou en ce moment sur la police des morts.
Et en terminant, vous êtes un spécialiste du Moyen-Orient, donc vous regardez de très près ce qui se passe là-bas. Est-ce que c'est toujours les suites du printemps érable? On dirait que le printemps érable n'a pas encore accouché de sa révolution encore, là. Ça bouille toujours. Le printemps arabe, pardon.
Les problèmes sont toujours là. Les problèmes de corruption, d'éducation, de chômage, de liberté d'expression, de pluralisme, tout ça, c'est toujours là. L'Iran a même été précurseur, parce que 2009, la réélection faussée d'Ahmadinejad, il y avait eu finalement un printemps iranien. Le problème, c'est que ce printemps dans le Moyen-Orient, printemps arabe, printemps iranien, c'est traduit par plus de répression et une reprise en main par tous les régimes autoritaires, hein, que ce soit en Égypte, en Syrie, partout, même en Tunisie. Vous avez vu Khalid Saïd en Tunisie, où vous avez une espèce de pseudo-dictature qui se remet en place, quoi. Donc il y a une espèce de retour en arrière, mais vous avez des soubresauts réguliers des populations qui disent non, comme on le voit en Iran en ce moment.
Ben, heureusement que ces gens-là disent non. Merci beaucoup d'avoir pris le temps
merci
de nous parler,
monsieur
Christian Chenot. Merci, journaliste au service international de Radio France, spécialiste du Moyen-Orient. Il est passionné et passionnant.